France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Suez 69, un pilote français a disparu. Le 24 mars 1969, une heure après avoir décollé de Damas et une heure avant l'atterrissage prévu au Caire, l'avion civil piloté par le français Gilbert Bréhand disparaît des radars. Brutalement, sans que lui ou son copilote n'ait lancé le moindre message de détresse. Gilbert Bréhand était un militaire, détaché pour quelques semaines auprès d'une société civile de photographie aérienne. Depuis 55 ans, sa veuve se bat pour que la France reconnaisse ce qui transpire de ce dossier. Bréhand était en mission d'espionnage aérien au-dessus du canal de Suez, dans une région en pleine ébullition militaire. Car dans cette affaire, il y a un fait, étayé par un courrier diplomatique. Le 24 mars 1969, c'est la DCA égyptienne qui a abattu l'avion de Gilbert Bréhand. Eh bien, ce courrier, daté du 30 mai de la même année, a été caché jusqu'à l'an dernier et il prouve que la France savait et qu'elle a choisi de n'en rien dire. Notre invité aujourd'hui, Marie-Yvonne Bréhand, la veuve de Gilbert Bréhand, et son avocat, Bertrand Salquin, qui tous les deux ont écrit un livre consacré à cette affaire, intitulé « Secret défense, mon mari a disparu », livre publié en 2024 chez Max Milo. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il ne fait pas encore jour sur la Syrie quand deux hommes se dirigent vers leur avion. Ils s'installent, checklist, mise en route, démarrage des deux moteurs. L'appareil se présente en bout de piste, la seule de cet aéroport militaire où se posent aussi les petits avions privés. Les Caravelles, les Boeing Airliner ou les DC-9 font en effet escale au nouvel aéroport international de la capitale syrienne inauguré un an plus tôt. À 5h14, ce 24 mars 1969, la tour de contrôle autorise l'avion des deux hommes à décoller. À 6h05, l'appareil contacte le contrôle aérien de Beyrouth. Quelques heures plus tard, l'ambassadeur de France au Caire signe le télégramme suivant.
TTU, très très urgent. On signale disparition avion Piper Aztec, piloté par Bréhand Gilbert. Parti de Damas, le 24 mars 1969 à 5h14, devait arriver au Caire à 7h45. Des recherches sont en cours, en vain. Reviendront vers vous pour vous informer. Signé, Puo, ambassadeur de France.
L'avion disparu était récent, entretenu et avait été inspecté quelques semaines avant. Gilbert Bréhand, un Français de 23 ans, et Jean-Daniel Berlasconi, un Suisse de 25 ans, étaient des pilotes chevronnés, malgré leur jeune âge. Eh bien, aucun des deux n'a pu émettre, via l'une des quatre radios à bord, le message d'alerte de circonstance « Mayday, Mayday, Mayday ». Quelques mois plus tôt, début janvier 69, Gilbert Bréhand se présente comme tous les jours à Terrefort, l'aérodrome de Saumur, où se trouve l'une des bases de l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT. Le maréchal des logis Bréhand est pilote mécanicien, c'est la domination d'époque, la dénomination d'époque, comme tous les matins. Il rejoint ses camarades dans la salle de garde. Au mur sont affichées des annonces, c'est habituel. À Terrefort, les bâtiments militaires côtoient l'aéroclub civil, et parfois, des industriels, des politiques, des particuliers fortunés de la région font appel aux pilotes de l'ALAT pour les emmener quelque part. Ces missions ponctuelles sont évidemment connues de la hiérarchie et acceptées tant qu'elles se font sur le temps libre des militaires. Ce matin-là, l'attention de Bréhand est attirée par l'une de ces annonces. Elle est émise par la SAPT, la Société africaine de photogrammétrie et de topographie, qui cherche un pilote pour une mission au Koweït. La SAPT est une affaire bien dirigée qui inspire confiance, précise une note militaire de l'époque. Bon, intéressé, Bréhand réfère à son supérieur, le commandant Raoul Campronon. Lors de ce rendez-vous, voici, selon l'épouse du pilote, Marie-Yvonne Bréhand, ce que l'officier lui dit.
La SAPT est basée à Casablanca, mais travaille avec nos services.
L'objet précis de votre détachement vous sera expliqué en détail à Paris. Pour cette mission au Proche-Orient, vous piloterez un avion civil immatriculé au Maroc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un avion militaire. Aucun pays ne peut prendre le risque d'être identifié en cas de pépin. Si vous acceptez la proposition, il s'agit d'opérer pour une société qui travaille pour nos intérêts et qui a besoin d'urgence d'un pilote expérimenté. Mais je n'en sais pas plus. Et ce que je viens de vous dire ne devra jamais sortir de cette pièce. Pour vos camarades, j'annoncerai une mission de coopération au Koweït.
Le 13 janvier, Bréant reçoit un télégramme signé Jean Vidéac, directeur de la SAPT. Il confirme l'acceptation de la candidature du pilote et lui demande de le joindre au 824 63 06 afin de fixer un rendez-vous aux 2 rue des Petites Écuries, le bureau parisien de la société. Quelques jours plus tard, Bréant se présente à l'adresse où Vidéac et son associé, un certain monsieur Evenou, le reçoivent. Toujours selon les témoignages de son épouse, les deux hommes disent en substance au pilote « L'émir du Koweït a de vrais projets d'irrigation agricole pour son pays. Des articles de journaux en attestent. » Mais l'important, dans cette conversation que Gilbert rapporte à Marivonne, c'est ce qu'il ne lui dit pas, ce qu'on suppose être les vraies raisons de cette mission. En raccourci, disons que l'endroit est à l'époque aussi instable qu'aujourd'hui, que les épisodes guerriers et meurtriers s'y succèdent comme ils se succèdent aujourd'hui, et que la géopolitique y est aussi bousculée en 69 qu'en 2026. À savoir, en juillet 56, l'Égypte nationalise le canal de Suez. En représailles, Israël envahit la bande de Gaza, le Sinaï et la rive est du canal. En novembre, et pour la première fois de leur histoire, des casques bleus sont déployés pour garantir la paix, même fragile. En 67, l'Égypte exige le départ des casques bleus. Israël déclenche la guerre des six jours. Au terme de cette bataille éclair, l'État hébreu se réinstalle, durablement cette fois, sur la rive orientale du canal de Suez, que Nasser, le dirigeant égyptien, décide de fermer la navigation internationale. En 68, l'Irak change de maître à la faveur d'un coup d'État, tout comme la Syrie 2 ans auparavant. Deux jeunes officiers prennent le pouvoir et y resteront longtemps, au prix du sang qu'ils font verser, Saddam Hussein à Bagdad, Hafez al-Assad à Damas, tous deux membres du parti Baas. C'est donc dans cette région troublée, explosive, que le pilote français va devoir survoler, en ce début d'année 69, une poudrière où les attentats du jour remplacent les exécutions d'hier, où les duels aériens d'aujourd'hui précèdent les tirs d'artillerie du lendemain. Voici un aperçu de l'époque au journal de 8 heures de France Inter.
Et comme toujours, Tel Aviv et Le Caire donnent des versions différentes du bilan des combats. Voici tout d'abord André Chemama de Jérusalem.
Les pertes israéliennes s'élèvent à un soldat tué et 9 autres blessés, dont 2 grièvement. Il y a déjà plus d'un mois, comme en témoignent les rapports des observateurs des Nations Unies, que les Égyptiens se livrent à des harcèlements par des tirs isolés sur les soldats israéliens au-dessus du canal.
Version arabe des événements de Beyrouth, Bernard Lano.
Le dernier communiqué militaire égyptien établit le bilan suivant. Du côté égyptien, 1 mort et 15 blessés. Du côté israélien, 39 tués et blessés et un matériel important détruit, dont 5 bases de lancement de fusées sol-sol, 12 chars, 6 postes d'observation.
Le 28 juillet 1969, alors que son départ pour Casablanca est prévu dans 3 jours, Gilbert Bréant annonce à sa jeune épouse qu'il doit se rendre dans les Yvelines. Alors qu'ils vont chez les parents de la jeune femme, ce n'est qu'un petit détour, mais il est nécessaire. Gilbert doit passer récupérer des autorisations de vol que la SAPT n'a pas pu lui fournir. La Ford Tonus bleue du couple s'arrête dans le village d'Orvilliers. Au coin des rues du Pré-Saint-Martin et du Vieux-Lavoir se trouve un ancien relais de poste, une maison blanche au volet gris-bleu. C'est là que Gilbert entre, pour en ressortir une demi-heure plus tard, une enveloppe à la main. Marivonne, qui l'attend dans la voiture, entend son mari lui dire « J'aurai des choses à dire quand je rentrerai. Je viens d'être présenté à une personne importante. » Des années plus tard, Marivonne Bréant reconnaît la maison en regardant la télé, c'est celle de Georges Pompidou. Cet épisode étonne le biographe de l'ancien président et des spécialistes du renseignement français de l'époque. Pompidou, en janvier 69, n'est plus Premier ministre de De Gaulle et pas encore président, donc il n'a aucun rôle officiel, ou officieux. Il est empêtré dans l'affaire Markovic, une sombre histoire de barbouzerie que nous vous avons racontée dans l'affaire Sensible, et il se méfie comme de la peste de tout ce qui est service secret. Dans leur livre, Le renseignement français en 100 dates, Olivier Brun et Jérôme Poirot écrivent.
Pompidou considérait de longue date la piscine, le surnom du siège du SDEC, comme quasiment inutile. Il parlait du service de manière peu amène, un ramassis d'adjudants-chefs alcooliques matinés de ratés de l'université. Mais surtout, il voue une haine féroce envers ceux qui ont sali la réputation de son épouse Claude à la suite de l'assassinat de Stéphane Markovic, un Yougoslave garde du corps d'Alain Delon. Claude Pompidou aurait été victime d'un chantage de la part de cet individu en raison de son goût pour les parties fines. Des photos, de grossiers montages circulent alors dans Paris. Le SDEC, ou à tout le moins, certains de ses agents auraient prêté la main à ce complot.
Bref, cette histoire d'enveloppe récupérée dans la résidence secondaire des Pompidou, sur fond d'opérations clandestines, ne colle pas avec ce qu'on sait de l'ancien président. Malgré ses doutes, Marie-Vonne Bréhand maintient aujourd'hui encore, c'est bien dans cette maison que son mari s'est rendu fin janvier 69 et qu'il en est revenu avec des soi-disant autorisations de vol. Trois jours après, Gilbert se rend à Orly et embarque dans la caravelle qui atterrit à midi à Casablanca, où l'accueille Vidaillac, le patron de la SAPT. Formalité administrative, flânerie dans le souk, coup de fil à Marie-Vonne qui lui donne des nouvelles de leur fils et de l'enfant à naître dans quelques mois. Lui, il raconte à son épouse les locaux quelconques de la SAPT, à l'écart des pistes. Et ce curieux personnage que lui a présenté Vidaillac, un certain colonel Bravant. Mais est-ce vraiment son nom? Un ancien pilote de l'armée de l'air reconverti dans le renseignement. Et voici ce que dit Bravant à Gilbert, selon les propos que Marie-Vonne rapporte dans le livre « Mon mari a disparu ».
La situation au Proche-Orient inquiète nos services qui manquent d'agents sur place pour les renseigner. Ils souhaitent savoir régulièrement comment les positions des belligérants sur le terrain évoluent. Depuis qu'Israël a envahi le Golan et le Sinaï, la région est sous tension et la France craint un embrasement. Nous vous avons recruté in extremis, car les événements s'accélèrent et il nous fallait un pilote militaire d'urgence. Quant aux dangers anticipés, sachez qu'il y a 3 ans, en 1966, nos pilotes ont essuyé un tir de DCA en Égypte. Le roi du Maroc est intervenu en personne pour obtenir des garanties de Nasser. Plus d'attaques sur nos avions.
Bréhand reste une dizaine de jours à Casablanca. Il en décolle régulièrement pour rejoindre Tanger, histoire d'avoir son Piper Aztec bien en main. Un avion reconnu dans les revues d'aviation pour être, je cite, « sérieux et sans vice, robuste et performant ». Le 10 février, décollage de Casablanca, direction Genève, où des pièces de Piper sont changées et où Gilbert va faire la connaissance de celui qui va rejoindre le Koweït avec lui, Jean-Daniel Berlasconi. C'est un jeune homme de son âge, ou presque. Bréhand le rencontre en Suisse. Berlasconi est né à Neuchâtel et grandit à une vingtaine de kilomètres de là, à Saint-Blaise, où ses parents tiennent une horlogerie-bijouterie. Passionné d'avion, il devient apprenti dans la compagnie Transair. Dans le dossier judiciaire suisse, une fiche de renseignement décrit Berlasconi ainsi. 1m68, corpulence svelte, yeux bruns foncés, cheveux noirs, signe particulier, mutilation de la main droite, amputation de l'index et du majeur, moignon de pouce. L'origine de la blessure est précisée plus loin dans l'affiche.
Le 8 mai 65, lors d'un cours de formation militaire, une grenade d'exercice lui éclate dans la main alors qu'il essayait de la jeter hors du baraquement pour protéger ses camarades. Malgré sa mutilation, il a réussi à réaliser son rêve grâce à un travail acharné et une volonté de fer. À l'école des ailes de Genève, il a passé son brevet de pilote professionnel. Par l'intermédiaire d'un de ses camarades de l'école, il a obtenu un engagement comme pilote de la compagnie SAPT, basée à Casablanca.
C'est Vidaillac, le patron de la SAPT, qui recrute Berlasconi pour des relevés aériens destinés à la prospection pétrolière au Koweït. Rappelons-nous qu'à Bréhand, il avait parlé de relevés pour l'irrigation agricole. Et c'est donc ce Vidaillac qui présente les deux pilotes l'un à l'autre, à Genève, le 10 février 69. Gilbert et Jean-Daniel s'entendent tout de suite. Le tutoiement est immédiat, après tout. Ils sont de la même génération et partagent la même passion. Et puis, ils vont passer de longues heures ensemble dans les semaines à venir. Et déjà, leur séjour à Genève s'étire. La société Piper a du retard dans la livraison de pièces de rechange pour l'avion, alors, pour passer le temps, Gilbert demande à Marivonne de le rejoindre quelques jours. Il lui offre une bague en argent. Ils cherchent des prénoms pour leur deuxième enfant. Ils font les touristes dans Genève, aux frais de la SAPT. Le 1er mars 1969, enfin, le Piper Aztec décolle de Genève. Marivonne est repartie en France. Gilbert et Jean-Daniel entament, eux, leur périple vers Kuwait City. Leur avion n'est pas taillé pour de longues distances. Alors, les aéroports s'enchaînent. Nice, Pise, Rome, Brindisi, Corfou, Athènes, Beyrouth, Damas et Bagdad, avant d'atterrir au Koweït le 13 mars. Presque 2 semaines de voyage, cela peut sembler long. Mais le parcours a été émaillé d'escales de plusieurs jours. Pas par confort, non. Mais la SAPT leur a demandé, à plusieurs reprises, de patienter. Toujours à cause de l'embrasement de la région, comme on l'entend ici au journal de l'ORTF.
D'abord, de Jérusalem, André Semama.
Toute cette journée a été marquée d'incidents dans la région du canal où ce matin, un MiG-21 a été abattu par la chasse israélienne. Dans l'après-midi, un véhicule militaire israélien a sauté sur une mine sans faire de victimes. Ce matin, à la radio, le général Dayan avait lancé un nouvel avertissement à l'Égypte, la mettant en garde contre la recrudescence des incidents.
La version arabe maintenant de Beyrouth, Bernard Lano.
Le dernier communiqué militaire égyptien diffusé par la radio du Caire fait état d'un nouveau bombardement de l'artillerie israélienne dans toute la partie méridionale du canal de Suez, allant d'El Kantara au nord à la ville de Suez au sud, soit tout le long d'une ligne de près de 100 km. Ce nouvel embrasement de la région du canal de Suez suscite ce soir une très vive inquiétude dans les milieux politiques de toutes les capitales arabes.
Bien malgré cette situation au Moyen-Orient, Bréant et Berlasconi, à qui leur patron Vidéac demande s'ils veulent renoncer, répondent « Non, on fonce ». Affaire sensible sur France Inter. Aujourd'hui, Suez 69, un pilote français a disparu.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Adrian et Berlusconi se posent à Koweït City le 13 mars. Mais que font-ils vraiment sur place? De la prospection aérienne pétrolière, comme Berlusconi l'a dit à ses proches? Des relevés pour l'irrigation agricole, comme Réan l'a dit au sien? À quoi sert vraiment dans le ventre de leur avion cette grosse caméra-là que l'un des deux pilotes déclenche et réapprovisionne en film? Selon le livre que Marie von Bréan a écrit avec son avocat, son mari et Berlusconi rencontrent au Koweït un agent français qui se présente comme le colonel Fabien. Celui-ci, évidemment, leur parle de la situation à Suez. Les deux berges ne sont plus qu'une zone endormie où étaient jusque-là retranchées des troupes léthargiques. Je cite un passage du livre. « Mais une zone de guerre qui intéresse tous les services de renseignement de tous les pays. » Pendant 8 jours, Gilbert et Jean-Daniel remplissent leur mission officielle, survolent les étendues arides du Koweït, puis rentrent le soir à leur hôtel, d'où ils ressortent pour se promener en ville. Parfois, Gilbert appelle Marie-Vonne. Elle lui parle de Yann, leur fils, de sa grossesse, et lui de son séjour.
Il me raconte la chaleur suffocante du désert qui entoure la ville. Le contraste saisissant entre la ville moderne, pleine de voitures climatisées, de bus, de camions, d'immeubles flambant neufs, avec un grand hôpital et une université, et la vieille ville et son souk cernés par les engins de chantier. Il décrit avec tendresse et poésie les déserts survolés, les colonnes de dromadaires au milieu des puits de pétrole, et finit par m'avouer à mots couverts, « Marie-Vonne, j'aurai beaucoup de choses à te raconter à mon retour. »
Le 22 mars, Bréan et Berlusconi décollent une dernière fois du Koweït pour entamer leur vol retour. Bagdad, puis Damas, Le Caire, Benghazi, Alger, N'Djamena, au Tchad, où ils sont censés remettre les kilomètres de pellicule tournés. Mais le 24 mars, après un dernier contact radio à 6h05 avec le contrôle aérien de Beyrouth, plus rien. Que des questions sans réponse. Parce qu'évidemment, Marie von Bréan veut savoir ce qui est arrivé à son mari, tout comme les Berlusconi. Commence alors un jeu de dupes où les autorités de plusieurs pays vont balader les familles. Ce 24 mars, jour de la disparition de l'appareil, l'ambassade helvétique du Caire appelle les parents de Jean-Daniel et évoque, je cite le télégramme diplomatique, un départ de l'avion sous une tempête de sable et un atterrissage d'urgence dans une zone désertique. On précise à la famille que des Bédouins ont recueilli l'un des deux pilotes blessés. Fausse piste, faux espoir. Surtout, ce que Berne ne dit pas, c'est que dans un autre télégramme, le numéro 36 du 4 avril, l'ambassadeur suisse en Israël écrit « Je me demande s'il ne conviendrait pas de déterminer si l'avion a dûment été annoncé au Caire, car sinon il aurait bien pu être abattu par les Égyptiens en pénétrant dans leur périmètre aérien. » Ignorant cela, mais cherchant des réponses, la famille du pilote suisse enquête et trouve de quoi douter fortement de la SAPT et de Videyak. Dans une lettre adressée aux autorités fédérales suisses, la sœur de Jean-Daniel, Sylviane, écrit
« Nous mettons très sérieusement en doute l'honnêteté et la conscience de M. Vidaillac. Il a tout fait pour éviter une confrontation entre la famille Bréan et la nôtre. On nous a dit que M. Vidaillac viendrait nous voir. Il a finalement annoncé, la veille, qu'il ne viendrait pas. À Mme Bréan, cette femme enceinte de 8 mois, maman d'un bébé de 11, il a dit que son mari ne faisait plus partie du personnel et qu'il lui devait par conséquent moins de 2 mois de salaire, amputé des impôts. La question de ce salaire peut paraître de peu d'importance, mais pour cette femme, c'est un drame. Il a dit aussi à Madame Bréan qu'il s'était rendu sur place, à Damas et au Caire, après la disparition. À nous, il a dit qu'il ne s'était pas déplacé.
Et ce n'est pas tout. Les Berlusconi découvrent qu'en octobre 1966, la DCA égyptienne a failli abattre un avion de la SAPT équipé d'une caméra. Un appareil qui survolait une zone d'exclusion aérienne au-dessus du canal de Suez. Accusé d'espionnage, Vidaillac, qui pilotait lui-même l'appareil, avait été sommé de remettre aux Égyptiens les pellicules. En résumé, un ambassadeur suisse se demande très vite après la disparition de l'appareil si les Égyptiens ne l'ont pas abattu. La DCA égyptienne a failli tirer 3 ans plus tôt sur un avion de la SAPT. Vidaillac se montre fuyant, menteur et quelque peu inhumain avec la veuve de Gilbert Bréan. Marie-Vonne, elle, tente de surnager. Le gouvernement français lui indique tour à tour que l'avion a disparu entre l'Égypte et Chypre, ou tout près de Chypre, ou tout près de Port Saïd, en Égypte, bref, un peu partout, mais surtout nulle part. On défile chez elle pour la prier d'accepter de sincères condoléances, pour dire que les autorités font tout ce qu'elles peuvent. On lui téléphone pour lui dire qu'on n'a pas de nouvelles. On lui écrit pour lui demander des pièces administratives. Et elle doit élever son fils et protéger autant que faire se peut la fin de sa grossesse. Elle accouche le 3 juin d'un petit garçon. Et comme Vidiac lui a promis de bientôt repasser la voir, eh bien elle espère des réponses. Mais fin juin 69, le patron de la SAPT meurt d'une crise cardiaque dans un train. Comme le note Marie Vonne dans son livre, « Quand j'informe la famille Berlusconi, ils sont inquiets. Je vois bien qu'ils pensent que cette disparition est aussi peu naturelle que celle de Gilbert et Jean-Daniel. » Quelques jours plus tard, la veuve fait la connaissance d'un industriel de Saumur qui possède des usines à Casablanca. Monsieur Mi, lui-même pilote amateur, connaissait bien Gilbert. Ils se croisaient souvent à l'aérodrome. Il promet à Marie-Vonne, lors de son prochain voyage au Maroc, de se renseigner sur les activités de la SAPT et sur Vidiac. Et bien au retour, il confie à Marie-Vonne qu'il a l'intime conviction que les autorités françaises, comme marocaines, cherchent à étouffer l'affaire et à manipuler les informations. Il se rend à la gendarmerie pour déposer. Le 25 août 69, M. Mi meurt dans un accident de la route. Au rayon des étrangetés, en voici une autre, cocasse celle-là. En août 1970, Marie-Vonne reçoit une lettre à en-tête de la radio RTL. Il est écrit.
Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné à notre jeu 60 jours de bonheur. Nous vous félicitons d'avoir été fidèle à RTL. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir 6 juin un chèque de 5000 francs que notre station est particulièrement heureuse de vous offrir. Nous vous prions d'accepter l'assurance de nos sentiments les meilleurs et encore nos compliments. Jacques Monnier, directeur de la production.
Le chèque de la BNP est valable. Sauf que Marie-Vonne n'a jamais participé au jeu. Elle n'a jamais appelé RTL. Dans le livre qu'elle signe, elle explique à la mort de Vidiac, l'associé de ce dernier lui indiquait qu'il connaissait le patron de la station de radio et qu'un gain à un jeu était la seule chose qu'il pouvait faire pour l'aider. Bon, le geste est louable, mais c'est bien la seule chose un peu douce dans cette affaire. Parce que depuis 55 ans, Marie-Vonne Bréhan vit un deuil impossible à consoler. Elle ne sait pas comment son mari est mort, ni où, ni pourquoi. On l'a beaucoup rassurée, des dizaines de courriers officiels en attestent, qu'on faisait le maximum, que les plus hautes personnalités veillaient à ce que son combat aboutisse. Mais rien n'est venu apaiser sa peine. Plus de 20 000 jours et 20 000 nuits sont passés depuis la disparition de Gilbert Bréhan et les questions de sa veuve rebondissent sur un mur de silence. Le ministère des Armées renvoie celui des Affaires étrangères, qui renvoie à l'Élysée, qui renvoie aux Affaires étrangères. En fait, rien n'a bougé, rien n'a évolué depuis ce courrier du 3 juin 69, un peu plus de 70 jours après la disparition de Gilbert Bréhan. Dans cette lettre, le Quai d'Orsay écrit
« Madame, j'ai l'honneur de vous faire savoir que nos ambassades au Liban, à Chypre, en Jordanie et en Égypte sont intervenues à maintes reprises auprès des gouvernements de ces pays pour que soit effectué le maximum possible de recherches. Ces recherches, à terre, de même que les patrouilles maritimes, sont toutes restées sans résultat. Les autorités responsables n'ont pu que conclure à la disparition, corps et biens, de l'appareil, probablement en pleine mer, à égale distance entre Chypre et l'Égypte. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes vives condoléances et l'hommage de mon respect. »
Retenez bien la date d'envoi, le 3 juin 69. Or, cette lettre est un pur mensonge. Pas un petit mensonge, un mensonge par omission, un mensonge pour ne pas faire de peine ou en adoucir une. Non, c'est un pur mensonge, c'est un mensonge d'État. Car 3 jours avant que le Quai d'Orsay signifie à Marie-Vonne Bréhan que les recherches n'ont rien donné, malgré les efforts fournis, que l'avion a disparu au large des côtes, voici ce qu'écrit l'ambassadeur de France au Caire. Et là, nous sommes le 30 mai 69.
De François Puot, ambassadeur de France au Caire, à son Excellence Monsieur Michel Debré, ministre des Affaires étrangères. Des informations recueillies de diverses sources. Il apparaît que l'appareil a en réalité été abattu par la DCA égyptienne. Celle-ci aurait reçu ordre de tirer sur tout avion qui s'approchait de la route du canal de Suez.
la France. C'est donc très vite que l'avion de Gilbert Bréhat et Jean-Daniel Bernasconi a été abattu par les Égyptiens, mais n'en dit rien. C'est ce que prouvent les deux courriers du 30 mai et du 3 juin 69. Et pendant 55 ans, les gouvernements successifs ont soit sciemment dissimulé la vérité, soit couvert le mensonge. Et c'est un fait. Et puis les Égyptiens avaient la DCA facile. À la mi-avril, 15 jours après la disparition de l'avion de Gilbert Bréhat, ils ont abattu un appareil civil à l'approche du canal. C'était un avion d'Ethiopian Airlines dont le pilote était un coopérant français. C'est là aussi un fait, admis cette fois par Le Caire. En ce début de printemps 69, ce qui se passe autour du canal de Suez intéresse bien évidemment les puissances locales comme occidentales. Chacune veut savoir comment évolue la ligne de front, comment sont positionnées les troupes, les blindés, les pièces d'artillerie. Et l'avion, parce que les satellites de renseignement sont rares et peu précis, reste le moyen le plus efficace d'observer. C'est là encore un fait. Alors que la France, pour une mission qu'elle ne pouvait assumer officiellement, ait choisi une voie clandestine pour obtenir ses propres renseignements est une hypothèse logique. Qu'elle ait arrangé le détachement d'un pilote militaire auprès d'une société civile pour ce faire est une autre hypothèse logique. Qu'elle n'ait pas assumé sa barbouzerie, comme le montrent nombre de coups tordus de l'histoire de la Ve République, est encore une hypothèse logique. Mais reste une femme qui voudrait, 55 ans après avoir perdu son mari, qu'on lui dise la vérité à laquelle elle a droit.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Suez, 69, un pilote français disparaît. Une affaire dont nous parlons avec nos deux invités. Marie-Yvonne Bréhat, la veuve de Gilbert Bréhat, bonjour.
Bonjour.
Et votre avocat, Bertrand Salquin, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez tous les deux Secret Défense, mon mari a disparu, un livre consacré à cette affaire paru l'an dernier aux éditions Max Milo, en 2024. Je voudrais commencer par la fin de l'histoire, par cette lettre de l'ambassadeur d'Égypte qui écrit au ministère des Affaires étrangères le 30 mai 69 que l'avion de votre mari a été abattu par la DCA égyptienne. Eh bien cette lettre ne vous est parvenue que l'an dernier. Donc j'imagine la surprise énorme. Quelle était votre réaction? Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous avez réagi?
Que c'était abominable d'avoir un secret... que la France ait déjà un secret défense et qu'à moi, on ne dise pas la vérité quand on l'a su 4 mois après.
Et quand vous recevez cette lettre, c'est... J'imagine
c'est une catastrophe.
Parce qu'à l'époque, vous ne vous attendez absolument pas à recevoir cette lettre.
Non,
vous dites c'est une catastrophe.
Non. Je ne savais pas qu'elle existait,
ouais,
puisqu'on m'avait toujours dit qu'il n'y avait pas de preuves.
Ouais. Et quand vous dites c'est une catastrophe, c'est votre blessure de savoir...
Blessure. Faire un deuil, c'est ce que tout le monde dit. Mais quand il n'y en a pas, c'est... Voilà, le jour où vous recevez cette lettre, vous pensez même que votre cerveau ne va pas bien, que ce n'est pas possible, qu'on vous ait caché cette vérité que vous vouliez tellement.
Parce que vous, dès la mort de votre mari, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre thèse?
Pendant une année, on m'a fait croire qu'ils étaient prisonniers et qu'on les retrouverait. Et j'y ai cru, je me suis rattachée à ça, comme à une bouée, parce que je ne voulais pas y croire. Mais au bout d'un an, je me suis dit, c'est quoi ces histoires que je crois et qui ne doivent pas être? Et après, je pensais toujours que la vérité allait venir, mais j'allais pas dire que j'avais fait mon deuil, mais je m'étais fait une raison que c'était abominable, qu'on voulait pas me dire. Et quand cette lettre est arrivée, je me suis dit, 55 ans après, ils peuvent pas me le dire, c'est pas possible. On pense vraiment qu'on va mal hein, du côté du cerveau, parce que comment on peut garder un tel secret aussi longtemps et laisser les gens dans cette souffrance?
Donc c'est double peine.
C'est double peine.
Il n'y a plus votre mari et puis vous perturbe psychologiquement.
Bien sûr. Puis sans vous parler du côté matériel qui m'aurait tellement aidé si j'avais eu une preuve.
Ouais. Maître Salquin, comment vous expliquez? Déjà, comment êtes-vous entré dans cette affaire? Pourquoi avez-vous décidé de prendre ce dossier en main?
Ah, ça fait partie des hasards des rencontres des avocats et de leurs clients. Je rencontre Marie-Yvonne à un tout autre occasion, c'est-à-dire dans un vernissage. Elle m'aide à attacher des tableaux, à accrocher des tableaux dans un vernissage que j'organise parce que je suis un petit peu à mes heures perdues. Et puis elle me parle de ça, elle me dit « Mais Bertrand, tu sais mon mari qui a disparu, qui a été abattu par... ?» Je dis « Non Marie-Yvonne, non, tu m'en as jamais... » Elle pensait m'en avoir parlé et elle commence à me parler de cette histoire. Je dis, mais Marie-Yvonne, c'est pas possible. Ton mari ne peut pas être détaché par l'armée dans une mission qui se termine aussi tragiquement sans qu'il s'agisse d'une mission secrète, d'une mission d'État. Parce que, puisqu'on t'a parlé de mitraillage, si l'Égypte ou l'Israël, parce qu'à l'époque, on ne sait pas très bien, mais si l'un des belligérants a mitraillé un avion civil, la France fait des protestations. Pourquoi la France n'aurait pas protesté? Si la France n'a pas protesté, moi, ça me paraît assez logique.
C'est une opération secrète.
C'est que c'est une opération secrète et que la France devait certainement être gênée. Et elle commence... À me ramener des documents, à me dire « Est-ce que tu voudrais t'intéresser à cette affaire ?» Mais c'est vrai qu'au début, je suis quand même un petit peu dépassé par la difficulté. Je dis « Mais Marie-Yvonne, il y a un problème de prescription. Ça fait plus de 50 ans, tu te rends compte ?» Elle me dit « Mais... » Et puis, je réfléchis, mais je dis « Mais ça fait aussi 50 ans qu'on lui ment. » Parce qu'elle me présente cette lettre du 3 juin, on lui dit qu'on ne sait pas où est l'avion. On a cherché partout, et on ne sait pas où est l'avion. Et elle me dit, mais je t'assure, le Camprodon me dit, ils sont arrivés aux abords de Port Saïd, à 60 miles de Port Saïd, parce que les radars des Anglais, le radar de Nicosie les a suivis, et Camprodon m'a dit, Madame Bréant, il reste encore un espoir, un pilote serait blessé, ce serait le Français. Ouais. Et là, on va de question en question. Je dis comment ça le Français? Parce qu'il y avait un autre pilote. Oui, un Suisse. Et voilà. Et on en arrive à cette histoire qu'elle me raconte par bride. Et puis un jour, je lui dis écoutez, je vais écrire au président de la République. À l'époque, c'est François Hollande. Et donc, on a l'échange que vous avez relaté dans votre récit, cet échange entre le ministère, l'Élysée, les affaires étrangères, les armées, et pendant 10 ans, on tourne en rond avec une date importante, 2019. C'est-à-dire que je commence à écrire en 2016. Puis personne n'a rien. On n'a rien aux affaires étrangères, rien aux armées, rien à l'Élysée. Pourtant, Marie-Yvonne me présente les condoléances du cabinet particulier du général de Gaulle de 1969. Elle me présente une lettre du 3 juin des affaires étrangères qui lui dit que l'avion est perdu corps et âme au milieu de la Méditerranée. Je dis, c'est pas possible qu'on ait rien. Et on en arrive à monter un dossier judiciaire et puis on va arriver au livre par la suite.
Alors, remontons 55 ans en arrière, Marie-Yvonne Bréant, vous formez avec votre mari un jeune couple, vous avez un petit garçon, vous allez avoir un autre enfant. D'ailleurs, cet enfant dans le récit est un embryon, aujourd'hui c'est un homme de 55 ans qui est là dans le studio, juste à côté de moi. On lui posera une question à la fin de l'interview. Quand Gilbert vous parle de cette mission au Koweït, que vous dit-il? Est-ce qu'il vous semble rassurant ou bien est-ce que vous comprenez qu'il y a peut-être une réalité caché ou pas du tout?
Alors au début, je pense qu'il ne voulait pas me faire peur et tout était bien, mais au fur et à mesure de la mission, il s'est rendu compte que rien n'était comme il l'avait pensé au départ et c'est allé de pire en pire. Et il me disait, quand je vois des avions Air France rentrer en France, j'ai qu'une envie, c'est en prendre un. Tellement cette mission me coûte. Et j'aurais beaucoup de choses à te raconter, comme vous avez dit.
Parce qu'il vous pouvait pas vous dire avant de revenir exactement ce qui lui coûtait, voilà.
Tout était écouté, tout était...
Et ça, il le savait, il en avait conscience. Il était dans un vol privé, mais il avait conscience que c'était une opération diligentée par les militaires. Et ce décalage-là, c'est ça qui...
Alors, il ne s'en vivait pas au début, mais il s'en est vite rendu compte.
Ah oui?
Oui. Et à la fin, c'était... Je vous dis, il aurait pris un avion pour se sauver.
France Inter. Affaire sensible.
Marie-Yvonne Bréant, je lis dans votre livre de Jean de Breuil, président de la commission des affaires étrangères, qui jure que ses services multiplient les démarches pour élucider les circonstances de la disparition de l'avion, de Robert Boulin, ministre de la Santé à l'époque, qui vous demande de s'adresser à la sécurité sociale marocaine, car l'avion est marocain et la mission est civile, du général de Gaulle, qui vous envoie ses condoléances. Bref, un récit sur du vent propulsé par les plus hautes sphères de l'État. Mais quand vous recevez ces informations-là de ces hauts dignitaires, qu'est-ce que vous ressentez?
Je pense que c'est surtout la sécurité sociale marocaine qui m'a fait...
Oui, ça c'est
mais l'assilisme. Ça m'a tué. Je me suis dit, mais depuis quand je suis française, mon mari est français, je n'ai rien contre le Maroc, mais la sécurité sociale, mais surtout quand vous êtes enceinte, prête à accoucher. Bon, il y a eu des assistantes sociales formidables, mais vraiment formidables, de l'armée, hein, bien sûr, qui ont tout fait, parce que même mon fils Charles a été reconnu par une assistante sociale militaire, puisque son père était porté disparu. Elle a prêté serment que c'était bien son fils et qu'il s'appellerait Charles Bréhin.
Alors, au-delà de votre fils et de votre avocat, vous avez des personnes qui vous ont soutenu, j'imagine, des proches, voire pas des proches d'ailleurs, qui vous a soutenu?
Alors, c'est vrai que je ne peux que remercier ma famille, parce que sans quoi j'étais sans ressources du tout. Mais oui, bien sûr, il y a eu un monsieur Gouze qui était professeur à l'Université catholique d'Angers. Il était professeur pour tous les avocats, justement. C'était quelqu'un de formidable, qui avait bien sûr le président du Secours catholique et qui ont amené des vêtements et des chaussons pour mes enfants. Ce sont des choses que j'ai même pas trop envie de repenser. Mais monsieur Gouze a été formidable, tout son entourage, et m'aidant à faire tous les courriers diplomatiques, enfin les courriers officiels, parce que je ne m'en sentais pas. Il me disait toujours que c'était bien ce que j'écrivais, mais heureusement qu'ils étaient là pour m'aider à faire toutes ces choses.
Il est encore vivant, ce monsieur?
Non.
Bon. Alors, il y a cet épisode du 28 janvier 69, au cours duquel votre mari, avec vous dans la voiture, s'arrête à Orvilliers récupérer des documents. Vous affirmez qu'il s'est rendu dans la résidence secondaire de Georges Pompidou. Or, nous l'avons signalé dans le récit, Pompidou, à ce moment-là, n'est plus Premier ministre, il n'est pas encore président, et le fait qu'il puisse servir de relais surprend ceux que nous avons interrogés. Vous êtes bien certaine que c'était la maison de Pompidou, hein?
Oui, oui, oui.
Je
ne
mets rien en doute, évidemment, non, mais je vous demande de le redire.
Non, mais je l'aurais jamais inventé, hein.
Oui,
et, mais dès le départ, on a su qu'on allait là-bas, parce que les autorisations de vol n'étaient pas arrivées à Paris, rue des Petites Écuries. Mmh. Et moi, je n'y suis pas rentrée rue des Petites Écuries non plus, parce que ça ne me... Voilà. Mais quand il est revenu, il m'a dit, les autorisations de vol ne sont pas arrivées, je dois aller les chercher à la résidence secondaire des Pompidou.
Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que Pompidou, c'était une star de la politique.
Sûr, hein, non, mais écoutez, je n'ai fait que suivre, je ne suis pas non plus allée chez eux, mais c'est vrai que, comme vous avez dit, je l'ai bien reconnu, mais je savais où j'allais dès le départ.
Et vous, maître Salquin, comment expliquez-vous cette visite chez Pompidou?
Je pense qu'effectivement, c'est une mission qui ne peut être ordonnée que par des canaux très, très détournés. Alors, quand on évoque dans la biographie de Pompidou le fait qu'il exécrait la piscine, la DGSE, peut-être justement que ça explique pourquoi on sait peu de choses sur ces missions qui concernent cette époque du gaullisme, parce qu'il y avait aussi ces officines qui étaient tellement secrètes que c'était des petites micro-organisations comme cette SAPT. La SAPT, elle a un siège à Casablanca. Ses dirigeants, on a M. Vidaillac, qui est le dirigeant officiel, mais le directeur parisien, c'est M. Evenou.
Oui, on connaît cité dans le récit.
Voilà, il y a un point commun quand même, c'est que M. Evenou, il est pieds noirs. Il est né en Tunisie.
Comme
et ils ont l'autorisation, parce que j'ai retrouvé en recherchant le décret du roi du Maroc, ils ont l'autorisation de créer une société de topogrammétrie au Maroc sans associé marocain, en étant tous les deux français et en déclarant comme dirigeant Vidaillac, qui à mon sens est un prête-nom, parce que le vrai dirigeant c'est certainement Monsieur Evenou, qui fait gagner à Marivonne ce fameux jeu RTL. Oui. Auquel elle n'a pas joué. Et je pense en plus qu'il n'a jamais existé, puisque j'ai eu en personne l'ancien archiviste de RTL qui me dit, j'ai regardé partout, maître, je ne trouve pas de jeu nommé 60 jours de bonheur. Parce que je me dis, peut-être que c'est un jeu dont je n'ai pas...
C'est mauvais goût aussi, vu la situation, là,
oui.
Le titre.
Et Marion, heureusement, elle a tout gardé. Elle a l'enveloppe, elle a l'original du courrier, elle a gardé l'enveloppe. Donc, alors, maintenant...
Même le bordereau de banque qui a remise.
Est-ce que c'est un vrai papier en tête d'RTL détourné par des services? En tout cas, voilà aussi tous ces mystères, parce que cette lettre de RTL, elle existe, le chèque, il a bien été encaissé, il a même gardé le bordereau de banque. C'est M. Evenou qui est censé être directeur à Paris, et elle avait un excellent avocat, Jean Richoux, qui s'était déplacé à cette succursale. Et il y avait eu des échanges, j'ai évoqué ces courriers d'avocats à l'époque, où la SAPT envoie mon confrère sur les roses en lui disant mais non, la société marivienne parisienne n'est qu'une société, qu'une succursale, l'employeur c'est la société marocaine. Et c'est là aussi qu'on rebondit sur Robert Boulin, dont on sait comment il a fini. Comme d'ailleurs Monsieur Debreuil.
Peut-être une histoire d'officine, là, là ouais, encore. J'ai bien dit peut-être.
Et Robert Boulin, qui est quand même ministre du Travail, qui écrit à Jean Foyer, qui est un illustre politicien des Pays de la Loire, et un ministre de Gaulle.
Et qui m'a aidé.
Et qui a aidé Marivonne. Donc Jean Foyer aide Marivonne en Anjou. Il va même jusqu'à l'accompagner à la caserne Desjardins pour rencontrer l'assistante sociale. Et Jean Foyer lui présente une lettre qu'elle a conservée et que, qui est en annexe d'ailleurs du livre Secret Défense, on a la lettre de Jean Foyer en annexe, et la lettre de Robert Boulin dit, explique à Jean Foyer, professeur de droit, ancien ministre du Travail lui-même, donc on a deux ministres du Travail qui s'écrivent, et le ministre du Travail de l'époque lui dit qu'il faut s'adresser à la sécurité sociale marocaine. Ouais. Mais même à l'époque, c'est une ineptie. C'est une ineptie qu'on ne peut pas se faire recruter à Paris et avoir un contrat de travail marocain, alors qu'il n'y a pas de contrat de travail.
Non, non, non.
Bien sûr. C'est une ineptie. Et donc, je pense que même Jean Foyer, au-delà de l'humanité dont il a fait preuve, savait très bien que Robert Boulin lui écrivait quelque chose qui était une contre-vérité, déjà pour un ministre, mais aussi pour un juriste, et qu'on a tous les éléments qui laissent penser que ce sont des officines qui sont très difficilement identifiables et qui permettent de valider la piste de Pompidou, justement.
D'accord. Donc Marivonne Briand, en résumé, que demandez-vous aujourd'hui ?
Je veux bien finir. Jean Foyer a quand même réussi à ce que la sécurité sociale marocaine, celle-là...
Ah, cette histoire de sécurité.
Ah oui, oui, parce que Jean Foyer m'a dit, excusez-moi, Jean Foyer a dit, ben non, 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 jamais on ira. Donc les assistantes ont fait en sorte que je reste avec cette sécurité sociale française.
Alors,
non, je voulais remettre les choses à leur place.
Oui, vous avez raison.
Grâce à Jean Foyer.
Aujourd'hui, vous demandez que la France reconnaisse que votre mari était en mission clandestine et qu'il est mort pour ça.
Bien sûr. Bien. Mais c'est une évidence.
Bon. Alors je parlais du fils Charles, qui est l'un des protagonistes de l'histoire, vous étiez enceinte de lui. Bonjour Charles Briand.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Vous aurez le mot de la fin.
Écoutez, ce que j'attends pour ma mère, pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants aujourd'hui, la réhabilitation de sa mémoire, effectivement, et qu'on dise qu'il est mort pour la France, pour l'intérêt de la France, et pas parce qu'il est parti faire un voyage un peu touristique dans les méandres des secrets.
Pour continuer à faire vivre symboliquement un défunt, il faut en parler. Vous parlez du défunt. Vous parlez beaucoup de votre père, que vous n'avez pas connu, avec votre mère, j'imagine.
Oui, effectivement, ça reste quand même toujours une blessure.
Bien sûr.
Et effectivement, réhabiliter de sa mémoire, c'est quelque chose qui permet aussi de pouvoir savoir que cet homme qui m'a donné la vie, qui m'a donné un prénom la dernière fois qu'il a vu ma mère, puis voir aussi un peu le deuil se faire pour ma mère qui est quand même toujours dans l'émotion par rapport à ça.
Bien sûr. Merci. Merci à tous les trois. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Briand. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.